mon père est plus pour l'idée que je m'installe que ma mère, parce que ma mère, elle a vu que mon père a eu du mal. Mais ouais, enfin, moi, c'est ce que je veux.
On n'a pas envie de reproduire les schémas de cette agriculture de il y a 50, 40 ans, où finalement beaucoup d'agriculteurs se sont endettés et aujourd'hui, c'est compliqué.
Il faut parfois être un peu fou, même pour soutenir certains projets. Parce que quand on voit en termes de rentabilité, en termes de temps de travail, il faut qu'ils soient motivés par autre chose que par l'argent ou que par. Voilà. Donc, c'est vraiment des gens passionnés.
Des rendements céréaliers qui chutent de 30%, un lait qui se vend 275 € en moyenne les 1000 litres quand le coût de production ne passe jamais sous les 350 € la tonne, d'où des ventes à perte. Des faillites d'exploitations agricoles qui ont flambé de 80% dans le secteur porcin l'an passé et d'un tiers pour les fermes laitières. Globalement, c'est une certitude, le nombre d'exploitations a été divisé par deux en 10 ans. Ajoutons encore ces statistiques macabres de la mutualité sociale agricole. Il y a 20% de suicides en plus dans le monde paysan quand on le compare au reste de la France. Malgré un allègement substantiel des cotisations patronales, malgré une aide de l'État, un report du paiement de ses charges sociales sur plusieurs années, un tiers des agriculteurs ont gagné en 2015 moins de 350 € par mois. Depuis, cela ne s'est guère arrangé. Voilà pour la face sombre de notre réalité agricole. Mais le bonheur est encore dans le pré. Sur une surface minuscule d'un hectare et demi, certains arrivent à produire de quoi nourrir 40 familles. Il y a des coopératives dans l'Aveyron, par exemple, où les 1000 litres de lait de brebis se vendent 1 500 €. Et des éleveurs de vaches pinoires qui dégagent un bénéfice réel, même si cette petite bovine d'1,17 m n'intéresse pas les grands acheteurs et qu'il faut pratiquer alors la vente directe à la ferme. Qui sont ces novices qui osent en pleine crise investir dans les champs et les cultures? En France, un tiers des nouveaux paysans ne sont pas issus du milieu agricole, ils sont hors cadre familial, comme on dit. Et 10 ans après, 9 de leurs exploitations sur 10 sont toujours debout. Jeunes agriculteurs s'installer quand même, c'est un reportage d'Anne-Laure Chouin. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes ce soir avec Dominique Bouvier. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du service entreprise et installation à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Et nous sommes aussi avec René Becker. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancien président et membre fondateur de l'association Terre de Liens. Et nous sommes évidemment avec Anne-Laure Chouin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Tara.
Alors à la veille du salon de l'agriculture, vous êtes allée Anne-Laure à la rencontre de ces jeunes qui font le pari de s'installer aujourd'hui alors que la crise, on le sait, bat son plein.
Oui, et à l'image du monde agricole, les profils de ces jeunes qui s'installent sont très différents. On le rappelle tout de même, pour l'instant, les trois quarts le font dans un cadre familial. Ils reprennent souvent les terres de leur père, oncle ou cousin. Et puis il y a les autres, ceux qui ne viennent pas du monde agricole, mais qui ont la ferme intention de s'y implanter pour différentes raisons que nous allons découvrir. Je suis donc allée en Auvergne, notamment dans la Loire ou encore en Franche-Comté. Mais d'abord, on commence ce reportage sur les terres céréalières de la Beauce. Le nombre de jeunes agriculteurs qui s'y installent, il reste bien inférieur au nombre d'agriculteurs qui partent à la retraite, mais le niveau d'installation est relativement stable. À Mellet-le-Grenet, près de Chartres, Florent Pinault s'apprête à cultiver les terres que cultivait son père, blé, orge, colza et bientôt betterave à sucre. Son frère est déjà installé juste à côté.
On écoute votre reportage.
Bon, on va se mettre juste à l'intérieur. Je pense que ce sera plus agréable d'être à l'intérieur.
Donc là,
on est dans le silo. Ben, en fait, là, c'est complètement vide parce que l'année est comme ça. Mmh. Enfin non, il y a encore un petit peu de stockage au fond. Mais en fait, pour vous donner une idée, normalement, on sort de la récolte, tout est plein. Et là, cette année, on n'a eu que cette partie-là qui était à moitié pleine. C'est un truc jamais vu. Vraiment, jamais vu. Alors, moi, je suis bien content de ne pas être installé. Non, mais c'est vrai, c'est bête à dire, mais c'est un peu égoïste. Mais mon père, c'est lui qui a subi cette mauvaise année-là. Et il vaut mieux que ce soit un gars qui est insolite qu'un petit jeune, quoi.
Et des années comme ça, il en avait déjà subi avant?
Non, jamais.
Ah ouais, jamais?
Jamais.
D'accord. Et alors, ce genre d'aléa climatique, pour le coup, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur pour le futur?
Oui, mais en fait, on se rassure tous en disant que mon père et je suis sûr que mon grand-père n'avait pas connu ça. Donc, allez, on repart pour deux générations, quoi.
C'est une année maudite, puis ça ira mieux plus tard.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Du coup, est-ce que pour l'instant, tu es parti sur les mêmes cultures que ton père? C'est-à-dire, tu vas faire à peu près la même chose dans un premier temps?
Ouais, dans un premier temps, puis dans un second temps aussi. Non, ça me semble pas mal.
C'est déjà pas mal.
Ouais, non, en fait, on part dans le même système d'exploitation. Ouais, moi, je me pose pas de questions parce que c'est lui, il a su nourrir sa famille, on va dire, comme ça.
Quatre enfants.
Ouais, quatre enfants. Donc, bah moi, normalement, je pourrais faire nourrir aussi la mienne en faisant ce système-là, quoi. Tout en la faisant évoluer, c'est une évolution perpétuelle. Il a mon père en fin de carrière, c'est plus le même métier qu'en début, ni que son métier, enfin le métier de son père. Et moi, je vais continuer, mais ça va évoluer tranquillement. Tout ça, en fait, c'est les bâtiments que mon grand-père a construits, puis qu'on a adaptés en fonction de nos besoins, quoi. Donc le grand hangar, là, c'est on stocke un peu tout. Donc là, il y a la machine pour récolter. Là, ce qu'on voit, c'est un semoir à engrais qu'on va dans pas longtemps utiliser. C'est pour donner de l'azote, le NPK, quoi, azote, phosphore, potasse. Donc voilà, donc nos deux bennes pour les récoltes. La machine à récolter en juillet, qu'on sort en juillet. Un tracteur, un semoir, là, c'est un semoir à betterave. Puis là, notre tonne à traiter. Voilà. Puis la charrue, elle est juste derrière. J'ai toujours traîné dans la ferme, travaillé l'été, mon père m'embauchait, j'ai toujours baigné là-dedans. Après, dire que c'était absolument ça qu'il fallait faire, ou j'étais pas... j'attendais de voir, en fait. Je pense que j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps, et puis j'ai pu prendre mon temps, parce que mon père était sur exploitation, il n'était pas pressé de lâcher, enfin voilà, il se posait pas... Je sais pas, il n'y a pas une pression particulière, ou quoi que ce soit. Travailler tout seul, j'aurais pas pu. Ouais. Par contre, travailler avec mon frère, ça c'est bien. Parce que ça avance, on se challenge mutuellement, parce qu'on se pose des questions, parce qu'il a l'expérience. Mon frère, il est installé depuis un peu plus, donc le fait de m'installer et de travailler avec des personnes qui font déjà le métier, même si j'aurai le soutien de mon père, eh ben, c'est une sérénité supplémentaire.
Après un bac, un BTS, un master commerce et gestion agricole, puis une expérience professionnelle dans le milieu para-agricole, Florent s'installe donc. Il coche la plupart des cases pour prétendre aux différentes aides qui existent. Parmi ces aides, une formation dédiée à l'installation dispensée par la Chambre d'agriculture.
Donc ce processus, on est soutenu par des personnes à la chambre qui nous guident. C'est-à-dire qu'ils posent les mêmes questions que toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait comme parcours professionnel? Qu'est-ce que tu as fait comme études? En gros, c'est pour déterminer ce dont on a besoin pour s'installer. Et après, on a un stage, ils appellent ça le stage 35 heures, et pendant une semaine, on voit les normes, la PAC, enfin tout un tas de choses, les banques, les assurances, tout un tas de personnes, la comptabilité, etc. Pour se mettre dans l'ambiance, bon, vous aurez tout ça à faire pendant que vous serez exploitant. Et il y a aussi un plan d'entreprise à faire. C'est-à-dire qu'avant de s'installer, on doit faire un plan sur 5 ans de ce que va devenir l'exploitation dans 5 ans. C'est une entreprise. C'est une entreprise, on a un chiffre d'affaires, un excédent brut d'exploitation, et un résultat net à la fin, on a une rémunération qui est calculée, c'est tout à fait une entreprise. Enfin, on a les mêmes soucis qu'un artisan ou que n'importe quelle autre entreprise, quoi. Voilà.
Et est-ce qu'il y a eu un investissement en capitaux à la base, ou du fait que tu loues, pas forcément?
Non, moi j'aurais pas d'investissement dans le foncier. Par contre, ce que je rachète, moi, dans l'entreprise de mon père, c'est tout ça. Par exemple, l'intérieur du silo, je le rachète. Les machines, j'en rachète pour partie, parce que l'autre partie, ça appartient à mon frère.
Ouais.
Tout est calculé par une personne, et ça fait le montant de reprise. Ils font un calcul, et puis moi, j'emprunte à la banque. Ils prennent le business plan, tout simplement. Donc le business plan, nous, on le fait faire par le centre de gestion. C'est-à-dire qu'on a estimé tant d'hectares qu'on devait faire en blé, tant d'hectares en colza, tant de rendement estimé, un prix moyen. Et puis après, derrière, on prend les charges. Et donc ça sort un plan sur 5-7 ans. Et donc c'est ce livret-là qu'on montre aux banques et qui leur permet de calculer combien on peut payer par an. Puis je rembourse. Voilà.
Florent et son frère reprennent donc l'exploitation de leur père, qui avait fait la même chose avec leur grand-père. Gilles Pinault accompagne son fils pour ses premiers pas et devrait quitter le métier en douceur, en n'ayant jamais vraiment douté que l'exploitation resterait dans la famille.
Vous vous êtes toujours dit... Il y en aura au moins un, voire deux, voire plus, qui reprendront. Vous aviez cet espoir-là quand même, ou pas forcément?
Oui. Je les sentais de toute façon intéressés par l'agriculture, donc j'avais bon espoir qu'ils prennent la succession. Ouais.
Vous-même, vous aviez fait la même chose en votre temps?
Oui, exactement. Et puis je ne m'étais pas trop posé de questions. Ça nous plaisait, moi ça m'a toujours plu. Bon... À mon époque, on était bien accompagnés, c'était par les parents. Les parents, le notaire, les banques. Maintenant, c'est sûr qu'il y a plus un accompagnement au niveau des structures professionnelles, des chambres d'agriculture et des syndicats, FDSEA par exemple. Il y a plus d'informations. Il y a les journaux aussi qui parlent beaucoup, hein, des journaux spécialisés, techniques. Donc on a beaucoup plus d'informations maintenant que de notre temps.
Et pour le coup, votre métier, est-ce qu'il s'est beaucoup transformé? Et est-ce que ce n'est pas la même chose ce que vont faire vos fils maintenant que ce que vous faisiez à l'époque?
Je vois maintenant, là, il fait beaucoup de travail de bureau déjà. Moi, je faisais plus du travail physique. On était beaucoup moins équipés au niveau matériel. On faisait beaucoup énormément de travail physique. C'était pas beaucoup, c'était énormément de travail physique.
Qu'est-ce qui vous stresse pour eux? Est-ce que vous avez certaines peurs par rapport à leur futur?
Moi, je pense que c'est toute la réglementation économique qu'il va y avoir au niveau de l'Europe et environnementale, vis-à-vis que ce soit de la population ou vis-à-vis des consommateurs. Tout est basé là-dessus maintenant, donc je ne sais pas comment ils vont pouvoir encore travailler normalement, comme nous on a fait, oui, normalement comme nous on a fait, sans avoir toujours une épée de Damoclès au niveau s'ils sont bien dans les clous, s'ils n'ont pas gêné la population, s'ils ont des produits sains. Hein, s'il n'y a pas de résidus de pesticides, voilà. Moi, je trouve que ça devient d'une complexité au niveau réglementaire qui fait que vous êtes plus à vous poser des questions qu'à faire le travail.
Besançon, centre de formation par l'apprentissage de Château-Farine. Des étudiants y viennent de toute la région qui se destinent au métier de l'agriculture, notamment dans le domaine de la forêt et du comté.
Bonjour, moi c'est Loris Konarski, je viens de Haute-Marne. J'arrive à terme des études, donc au mois de juin c'est l'examen. Et puis ben, le projet c'est s'installer donc sur une ferme polyculture-élevage, hein, comme on le voit beaucoup en Haute-Marne.
Donc Michel Saint-Hilier, j'habite dans le Doubs, en Franche-Comté. Donc après mon BTS, je m'installe en filière comté, donc sur la ferme familiale.
Bonjour, je m'appelle Anaïs Pietras, donc j'habite en Haute-Saône. Et à terme, je souhaiterais aussi m'installer.
J'ai toujours été baigné dans le milieu depuis tout petit. Ouais, depuis tout jeune, je participe aux travaux de la ferme. Et puis après, c'est une envie, ça devient une passion. Et puis si on veut, agriculteur, c'est quand même une vie. C'est du matin jusqu'au soir et ça, toute une vie. On vit au rythme des saisons. Et c'est surtout une grosse implication. On travaille avec du vivant, on travaille avec... Et oui, c'est vrai qu'être installé, c'est quand même... Salarié, on prend pas les choses pareilles, quoi. On est plus conducteur d'engins ou c'est plus spécialisé. C'est pas du tout ça que je cherche.
Comme mon père était paysan, j'ai toujours suivi. Donc suivi avec le grand-père, le père, c'est vraiment une tradition familiale. Et pour nous, c'est plus un mode de vie. Donc on suit les travaux des saisons, on suit les animaux, on se couche avec le soleil. Ouais, donc c'est vraiment un attachement à la terre aussi, avec l'aide de notre décision. Ben, c'est dur, mais je me dis si mon père l'a fait, faut que je le fasse. Faut que je continue ce que mon père a commencé pour pas abandonner tous les efforts que mon père ont fait.
Alors moi, mon papa est céréalier, mais on va dire que au départ, j'étais pas trop destinée à faire ça. Enfin, je suis partie en licence à Reims, et finalement, j'ai eu envie de retourner à mes racines, et j'ai préféré me réorienter. Donc, je me suis réorientée dans l'agricole il y a 2 ans.
C'est un truc, tu parles de racines, il y a de ça là-dedans.
Oui, oui. Quand on a toujours été bercé dans le milieu, il y avait un manque, on va dire, un attachement assez fort, et du coup. J'ai voulu vite y retourner et ça m'a permis de voir autre chose, de partir, mais j'ai été contente de revenir.
À Château-Farine, les jeunes qui souhaitent s'installer un jour choisissent le BTS AXE comme analyse et conduite des systèmes d'exploitation. Ils y reçoivent un enseignement pratique via notamment des stages en exploitation, mais aussi, et de plus en plus, ils y sont initiés aux outils de gestion, de comptabilité et de commerce. Ludovic Dubuisson est enseignant à Château-Farine. Il suit ces jeunes qui veulent s'installer malgré la crise, malgré les difficultés, et malgré le discours ambiant, souvent négatif, autour de l'agriculture et des pratiques agricoles.
Principalement, les jeunes qui sont en formation,
ils sont aussi là parce qu'ils sont conscients, je pense. Hein. Alors, des fois, en première année, il n'y a pas forcément la maturité, etc. Mais ils sont quand même conscients que l'agriculture est confrontée à des problèmes. Hein. Donc, ce n'est pas noircir le tableau de dire qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on travaille aussi, par exemple, sur la politique agricole commune? Dans quelle mesure c'est efficace? Est-ce que, voilà, ce n'est pas noircir le tableau de dire qu'il y a des problèmes. Et les jeunes sont en recherche aussi de déboucher, parce que c'est quand même leur vie professionnelle quoi, qui est derrière. Hein. Ce n'est pas que l'agriculture, à l'échelle de la planète, nourrir le monde. C'est pas que ça, quoi. Les jeunes sont aussi en recherche de formation pour ça. Les jeunes aussi ont besoin d'autres notions qu'on n'avait pas forcément besoin il y a encore 30 ou 40 ans. Sur, par exemple, l'histoire de, pour revenir à l'installation, sur les montages de sociétés, sur les indicateurs un petit peu en termes d'économie, d'efficience, d'efficacité de système. Ça, c'est des indicateurs qu'on ne regardait pas trop avant. Ici, là, dans notre projet installation, on a un module qui s'appelle le MIL, c'est module d'initiation locale, et on traite des problèmes d'installation, des problèmes ou des choix d'installation. Comment on rentre dans une société, comment on en sort. Et ça, c'est des formes d'installation, pas nouvelles, je dirais, parce qu'il y a quand même déjà longtemps que ça se pratique, mais dans nos jeunes, nous, par exemple, on a ma maman part en retraite, je vais rentrer dans le GAEC. Donc je vais rentrer dans la société, la cession de parts, comment je rachète les parts de ma mère. Est-ce que ma maman reste associée mais ne travaille pas? Elle garde simplement des parts de capital. Donc voilà, donc ça c'est des formations, des choses qui encore, je dirais, 30-40 ans, les formes d'installation sont différentes, les structures d'exploitation sont différentes, il y a des grosses problématiques travail. On voit aujourd'hui des exploitants qui nous disent « moi je veux lever le pied parce que je veux voir mes enfants grandir, j'ai une femme, j'ai des enfants, voilà ». Donc tout ça, ça se résonne à l'échelle de l'exploitation, quoi. La force de ces publics agricoles, c'est que c'est des gens qui sont très passionnés. Il faut parfois être un peu fou, même, pour soutenir certains projets. Parce que quand on voit, en termes de rentabilité, en termes de temps de travail, il faut qu'ils soient motivés par autre chose que par l'argent ou que par... Voilà. Donc c'est vraiment des gens passionnés.
Bonjour. Ça va, Alexis? Alors Alexis, c'est BTS première année.
Dans la région, la filière comptée est bien organisée, bien valorisée, et les agriculteurs qui en vivent s'en sortent relativement mieux que leurs collègues qui produisent du lait dit standard. La contrepartie, de plus en plus fragile, à ce qui reste un métier difficile. Alexis Paget est en première année de BTS.
Ben, à la base, quand j'ai commencé mon bac, c'était pas forcément d'être agriculteur, j'étais plus parti sur un métier de vétérinaire. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, ce que j'aimais faire, c'était plus dans l'agricole. Je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire, qu'il n'y a que là que j'étais bien.
Comment tu te vois d'ici 5 à 6 ans?
Bah, je pense que pour finir, je vais me voir installer, même si mes parents ne sont pas forcément pour. Après, ils me laissent mon propre choix, mais vu que mon père a arrêté, ils ne sont pas forcément pour, mais moi, je me vois installer, je pense. Donc mon père, maintenant, il est salarié agricole, donc il a arrêté la ferme. Donc il est salarié agricole pour des jeunes agriculteurs donc, qui sont haut placés au niveau des JA.
Et alors, tu dis qu'il ne préférerait pas que tu t'installes, pourquoi?
Bah, parce que... Il a vu comme c'était dur, il a fait ça pendant une vingtaine d'années, donc il a vu comme c'était dur. Après, il voit que j'aime ça aussi, il voit que je suis à fond dedans. Mon père est plus pour l'idée que je m'installe que ma mère, parce que ma mère, elle a vu que mon père a eu du mal. Mais ouais, enfin moi, c'est ce que je veux. Le contact avec les bêtes, la proximité, aussi la liberté horaire, on est son propre patron, donc c'est tout de suite plus facile. Bon, c'est sûr que c'est 365 jours par an, enfin 24 heures sur 24, donc... Bah bon, oui, moi, enfin, il n'y a qu'au milieu de mes vaches que je me sens bien, j'ai envie de dire. Parce que le matin, bon, des fois, à 5h30, c'est dur de se lever, mais une fois que je suis arrivé au travail, non, ça ne me dérange plus. Donc, c'est là que je vois que j'aime ça. Voilà, je suis passionné. Enfin, plus tard, je pars du boulot, on ne va pas dire que je suis content, mais presque. Enfin, après, c'est sûr que, oui, au niveau du. Enfin, moi, je suis toujours parti en vacances, mon père a toujours pris des vacances, mais bon, c'est pas forcément évident. Et puis quand on voit la conjoncture actuelle, bon, nous on est quand même dans le comté, donc on est un peu protégé, mais bon, est-ce que ça durerait indéfiniment? Je sais pas, donc après oui, c'est question de finances, question de toutes ces choses-là. Après aussi, voilà, nouvelles élections, Europe, pas Europe, prime, pas prime, ça peut aller vite et vite être plus difficile.
Comment tu vendrais un peu ton métier à des gens qui estiment que, bon, de toute façon, maintenant, les paysans, c'est fini? Enfin, tout le discours qu'il y a aussi aujourd'hui autour de l'agriculture, qu'est-ce que tu dirais pour dire non, il y a des choses à faire
Bah, rien que leur montrer la classe, quoi. 60, presque 60 passionnés jeunes, il y en a dans beaucoup, beaucoup de lycées. Montrer que ça a de l'avenir quand même, parce qu'on est là, on est motivé, et puis... D'accord, la conjoncture va pas très bien, mais on arrive quand même à se bouger. Il y a eu beaucoup de manifestations. Bon, ça n'a pas mené à grand chose, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et oui, Il y a encore du monde de passionnés, quoi. Même s'il y en a de moins en moins, je pense que ouais, l'agriculture a de l'avenir quand même.
Toi, t'as de l'espoir.
Moi, j'ai eu beaucoup d'espoir.
On a toujours vécu ici, nos grands-parents souvent aussi. C'est notre terre, c'est notre pays, et rien ne nous fera changer d'avis. Malgré la peur et le poids des soucis, on y restera car telle est notre envie. Paysans, nous sommes fiers d'être paysans. Nous sommes libres d'être paysans. Nous sommes dignes et debout. Les paysans, nous sommes jeunes et paysans. Nous sommes innovants et paysans. Nous sommes dignes et debout.
Bonjour, je m'appelle Ronan Bournigo et j'ai 33 ans. Donc on est dans la région Auvergne, département du Cantal et commune Saint-Étienne-de-Chomeil, hameau Chassagne. C'est tout à nous, ouais, c'est tout à nous. Il y a donc là une grange qu'on a déjà retapée, une maison qu'on va retaper. Il y a un peu plus loin une serre tunnel qu'on a montée pour temporairement héberger les vaches au tout début qu'on est arrivé puisqu'on n'avait pas de bâtiment. Et un séchoir à plantes médicinales qu'on a installé dedans, qui fonctionne à l'énergie solaire captée dans la serre. Donc on fait de la plante médicinale sauvage, qu'on cueille en grande partie sur la ferme, dans les haies, que ce soit par de la feuille de frêne ou des bourgeons. On fait aussi des vaches, donc on vend des veaux en caissette. Et on fait aussi et surtout, puisque ça deviendra l'activité principale dans quelques années, si tout va bien, du pain avec les blés qu'on fait pousser sur la ferme.
Ronan s'est installé avec sa compagne, Marina, leur petite fille, et bientôt un autre enfant. Leur couple est hors cadre. C'est comme ça qu'on appelle les agriculteurs qui s'installent sans avoir de lien de parenté avec un autre agriculteur et sans reprendre les terres de famille. On estime qu'ils représentent une part certes minoritaire, mais en augmentation, entre 20 et 30% des jeunes qui s'installent, souvent dans des conditions plus difficiles.
Alors, on avait ce projet à la base, on est exactement sur le projet de départ. Ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et pour trouver les terrains, ça a été très compliqué. C'est le premier parcours du combattant, ça dure, pour nous, ça a duré au moins 3 ans. Donc nous, on a fonctionné par la SAFER, pour cette ferme-là en tout cas. On avait été en voir d'autres qu'on avait cherché sur le bon coin, enfin sur les réseaux classiques qu'on peut imaginer. Et on a eu un premier projet qui a échoué dans le Limousin. Parce que je tiens quand même à dire une chose qui est importante, c'est que bon, il y a la SAFER, il y a les chambres d'agriculture, il y a les plans de développement économique qu'on fait avant de s'installer, tout ça. Mais le dernier mot, c'est toujours la banque qui est là, s'ils sont d'accord ou pas pour nous prêter de l'argent. Ça fait un budget conséquent, mais qui est finalement pas beaucoup plus élevé que pour une reprise. Moi, je compte que pour s'installer avec une petite surface diversifiée comme nous, il faut compter au moins 300 000 euros, quoi. On avait de l'apport, on arrive quand même avec 100 000 euros d'apport, ce qui est quand même pas rien. Mais malgré ça, ça a été pas si simple que ça de trouver des banques qui suivaient. Et il s'avère que donc notre premier projet, ça passait tout bien partout, sauf à la banque, qui a refusé, toutes les banques ont refusé de nous prêter de l'argent pour ça.
Et alors, quel était le
Sans motif. On n'a pas bien compris pourquoi, et même la chambre n'a pas bien compris pourquoi non plus. Ce qui fait qu'on a recommencé à chercher, on a trouvé ici, donc là sur le site de la SAFER. Ici dans le Cantal, oui, on a trouvé une banque qui suivait. Ouais. On avait même deux banques qui suivaient. On a eu le choix. Et on savait qu'il y avait beaucoup de boulot. Si, effectivement, il y a beaucoup de boulot.
Alors en l'occurrence, il y avait quoi? Vous l'avez trouvé dans quel état?
On l'a trouvé dans quel état? Là, la grange qui est là était complètement écroulée, le toit était effondré, il y avait de la paille qui avait peut-être 15 ans, qui était en train de pourrir. Donc il a fallu tout refaire. La maison, bon, on n'y a pas encore touché parce que tout est à refaire dedans. Et puis surtout, les terres étaient complètement en friche. Ça, c'était un gros inconvénient. J'ai des voisins qui m'ont dit récemment que bah, pour eux, Chassagne, c'était mort, quoi. C'était une ferme qui était finie, c'était parti pour la forêt, quoi. Donc bah, voilà, nous, il nous restait ça, donc on l'a pris. Donc voilà, on a pris nos tracteurs que des voisins nous ont prêtés pour commencer. Et puis on a broyé la broussaille pour essayer de faire des prés, quoi. Je tiens vraiment à dire qu'on est arrivé dans une tribu auvergnate de Saint-Étienne-de-Chomeil, parce que c'est un peu des tribus ici, hein, c'est quelques familles. Pour un village, il y a peut-être 3-4 familles majoritaires, je dirais. Et tout le monde a super bien joué le jeu dans l'accueil, dans le voilà, au niveau du prêt de matériel par exemple, mais aussi des fois des conseils, des historiques, parce que c'est super important d'avoir l'historique des terres. De toute façon, dans des coins comme ici, que ça soit pour un paysan, un artisan ou qui que ce soit, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il est toujours bien accueilli parce que les populations, les villages se vident, quoi. Et que d'avoir un nouveau qui arrive, un jeune avec des enfants, c'est la fête, hein. Puis on a fait ce vœu aussi de rester, comment dire, bien à l'intérieur d'un système, notamment avec le voisinage, et de vraiment pas se couper de ça, quoi. On ne veut pas vivre en autarcie, c'est pas le but du jeu du tout. On veut avoir des échanges avec nos voisins, on veut avoir des échanges avec le monde extérieur. On veut que la ferme devienne un jour un lieu d'apprentissage, parce que y a plein de gens qui veulent s'installer, il y en a très peu qui le font, parce qu'il y en a aussi très peu qui ont la possibilité de découvrir ce que c'est qu'une ferme, de voir ce que c'est que faire du pain, faire du blé, des variétés traditionnelles de blé. Et moi, si je me suis installé, c'est beaucoup parce qu'on m'a transmis ça, quoi.
Donc là-bas, c'est la serre.
Ouais, c'est la serre. Alors, tu vois, là, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait rien.
Toute la famille vit pour l'instant dans une yourte installée en contrebas, raccordée à l'eau et à l'électricité il y a quelques jours seulement. Les premiers mois ont été éprouvants et il y a toujours beaucoup de travaux en cours, même si la famille, notamment, vient donner parfois un coup de main. Marina nous rejoint après avoir été préparer le levain pour son pain.
C'est vrai que ça a été vraiment très, très dur. Il y a des choses qu'on pensait que ça allait être plus simple. Déjà, on ne savait pas comment on allait réagir en fait aussi sur la durée. C'est-à-dire au bout de presque 2 ans, comment on allait se sentir individuellement, dans le couple, dans la famille, intégrer aussi au sein du territoire, du voisinage. C'était en fait plein de données qu'on n'avait pas et qu'on ne savait pas forcément comment ça allait se passer. Et puis après, il y a plein de changements aussi, c'est-à-dire que ce qui est écrit sur le papier, après, ça se... c'est pas forcément la réalité. On essaie de faire des prévisionnels sur 4 ans, 5 ans, et en fait, il y a plein d'autres facteurs. On regarde vraiment des choses purement économiques, mais il y a plein de choses qui changent, en fait, nous-mêmes, ce qui est autour de nous, et puis aussi les politiques, les lois, tout un tas de choses qui viennent tout chambouler, et on doit à chaque fois s'adapter et le faire aussi un peu tout seul, quoi. Tout gérer.
Et c'est bien d'être deux ?
Eh bien oui, c'est bien, oui, bien sûr, c'est bien d'être deux, ouais. Ce serait bien d'être encore plus, mais... parce qu'on peut échanger, parce que sinon il faudrait déléguer, et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on a envie. Et donc c'est un apprentissage aussi, moi je m'occupe un petit peu plus de tout ce qui est paperasse, administratif et tout. Et c'est vrai que je commence à peine à y voir clair, au bout de presque 2 ans, 18 mois, ouais.
Le bilan au bout de 18 mois, c'est trop tôt pour dire si ça a été une réussite ou un échec, mais en tout cas, voilà, est-ce que c'est pas...
ça dépend des jours. Il y a des jours où je me dis waouh, on a déjà fait plein de choses et on a bien avancé, et j'arrive encore à garder une espèce de ligne et savoir pourquoi on fait tout ça. Et il y a d'autres jours où c'est un peu déprimant. On se sent un peu seul, où on voit que ça finit jamais, qu'il y a toujours tout un tas de choses à faire. Au niveau de l'organisation et tout, des fois c'est pas forcément facile. Mais j'y crois. J'y crois, ce serait. C'est juste qu'on sent qu'il y a plein de choses encore à faire, qu'il y a un potentiel énorme et que on a juste 4 bras et plein d'autres envies en fait.
De l'autre côté du Massif central, plaine du Forez, département de la Loire. Pauline et Joachim ont la petite trentaine. Ingénieurs agronomes de formation, ce sont des hors-cadres, eux aussi très diplômés, qui se lancent dans le maraîchage bio, des légumes et des petits fruits qu'ils vendront dans un petit magasin en cours de construction au sein de la ferme, ferme située en plein cœur de la commune de Saint-Romain-le-Puy.
On arrive sur le terrain, Donc on a vraiment eu autour de la ferme, c'était des fermes en polyculture élevage, c'est-à-dire qu'il y avait autant, juste à droite là on avait les cochons, il y avait deux, trois bêtes comme des vaches, et après un peu de prairies, un peu de céréales. C'est vraiment de la diversification de l'époque. Là ça fait une génération au moins que ça n'a pas été utilisé en agricole. Et nous, ben, nous on reprend vraiment toutes ces parcelles qui sont autour, les dernières qui restent. Du coup on a situé une partie avec le poulailler, le parc à poules, qui fait à peu près 400 mètres carrés. Et après, sur tous les côtés, les légumes vont pousser à gauche et à droite.
Il a fallu tout planter. Donc là, on a bien préparé les terrains, surtout au début d'année. Là, on est en plein dedans. On a tous les légumes qui sont arrivés. Là, les côtes de blettes qui sont arrivées en début de semaine, les oignons. On a aussi semé, il y a de ça 15 jours, des carottes, des petits pois. Et voilà, il y a tout qui se fait un peu en parallèle. En début d'année, c'est normal, on est en pleine installation. Mais ouais. Faut garder de l'énergie, quoi.
Pour le coup, le climat de la région est plutôt propice. Enfin, comment ça se passe? Vous apprenez à le découvrir aussi un peu?
On apprend à le découvrir un peu au fur et à mesure. On s'est fait avoir notamment sur des vents dominants du sud-ouest. Quand on a mis en place nos bâches, ça a été un peu compliqué, les premiers vents violents. Donc on découvre un peu au fur et à mesure. Après, on est dans la plaine du forêt, donc on a des températures qui descendent très bas en hiver et des gros pics de chaleur avec des moments de sécheresse. Donc c'est un peu compliqué, mais après il faut faire avec, on a des différentes techniques à mettre en place. Donc après il faut travailler avec le climat, il est comme il est.
Ouais. On s'est rencontrés dans un centre de recherche en agronomie en Suisse. C'est vrai qu'on aurait pu garder la voie recherche aussi, mais il y avait quand même un fond on va dire plus feeling et plus profond dans vraiment la production, la main dans la terre. Et c'est ça là-dessus, on voulait continuer notre expérience.
Ce côté de l'alimentation qu'on a complètement perdu, on est complètement déconnecté de notre alimentation aujourd'hui. On va faire nos courses dans un supermarché où on a tout le temps. Dans la nature ou dans la vie, ça se passe pas comme ça, quoi. Donc il y avait ces côtés-là que je trouvais un peu absurdes. Donc je me suis dit, moi, il faut que j'ai un rôle à jouer là-dedans. Il faut que je puisse apporter ma pierre à l'édifice. Et voilà, c'était ça vraiment cette envie que j'avais, quoi. On entend beaucoup aussi de scandales sanitaires au niveau des industries agroalimentaires ou même de grosses exploitations agricoles. Et c'est vrai que ça fait parfois peur, mais on est quand même complètement déconnecté. Il y avait aussi ce besoin de retrouver aussi le contact entre le consommateur et celui qui produit notre alimentation, quoi. Il y avait vraiment cette envie aussi de rétablir un peu ce lien. Donc voilà, c'était tout ça un peu mélangé qui a fait que on a trouvé un peu un sens à notre vie. Et ça, c'est clairement un projet de vie. Ça va au-delà d'un projet professionnel, quoi. Il y a toute une éthique aussi qu'on a envie de défendre. Toute cette petite paysannerie qui est en train de disparaître, ça nous tient quand même à cœur. C'est pour ça qu'avec Terre de Liens, on se retrouve beaucoup dans ces valeurs-là. Mmh. Et voilà, ça va se mettre en place gentiment, ça va pousser.
Et là, on a la carotte primeur qui commence à...
Particularité de Pauline et Joachim, ils ne sont pas propriétaires des murs de la ferme ni des terres. Ils les louent à l'association Terre de Liens, un mouvement qui rachète ou recueille des terres pour y installer de nouveaux paysans qui ont en commun une certaine vision de l'agriculture. Nelly Véricel fait partie des bénévoles de Terre de Liens. Elle a accompagné l'installation de Pauline et Joachim.
Alors en fait, à Terre de Liens, on va dire qu'il y a trois structures. Il y a la foncière qui collecte l'épargne citoyenne, il y a la fondation qui collecte des dons et une association, donc nationale déclinée en association régionale. Et c'est là du coup qu'on retrouve les bénévoles. Et les bénévoles, en fait, ont pour mission des missions multiples. Ça va être de prêcher la bonne parole et de faire connaître Terre de Liens, donc soit sur des stands, dans des foires, sur des salons, dans des boutiques bio, et effectivement d'accompagner les porteurs de projets. Si on a des gens qui nous sollicitent. Et là, dans le cadre de la ferme Pierre-Jeanne, c'était un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une ferme qui a été donnée à la Fondation Terre de Liens. Et du coup, à partir du moment où on y a eu la ferme, on a lancé une recherche de porteurs de projets, on va dire.
Des appels à candidature.
Oui, tout à fait, un appel à candidature. Donc du coup, l'idée, c'était de rencontrer des porteurs de projets. Donc là, on avait commencé en mars par une visite de la ferme. Mm-hmm. Donc il y avait une dizaine de personnes ou une dizaine de couples. Et puis ensuite, suite à la première visite, on a demandé de poser réellement les dossiers de candidature. Et là, on a trois couples qui se sont positionnés, dont Pauline et Joachim.
Il y avait des critères particuliers à ces candidatures? Il fallait être dans le bio, il fallait...
Oui, tout à fait. Déjà, effectivement, respecter le référentiel de l'agriculture bio et puis être dans une dynamique de transmission, on va dire, puisque c'est vrai que là, au niveau de la ferme Pierre-Jeanne, c'est une donation. Donc l'idée, c'était de transmettre. Et puis évidemment, oui, que ça reste une ferme avec le U qui représente 8000 m², un petit peu moins d'un hectare. Voilà.
Les jeunes qui viennent à Terre de Liens, comment ils y arrivent? Est-ce qu'ils sont orientés avant par d'autres organismes? Et est-ce que par ailleurs, peut-être leur projet où ils n'ont pas trouvé de terre via la SAFER, enfin, est-ce que c'est aussi suite à des échecs? Oui. Ou est-ce que leur projet n'a pas été retenu par les banques?
La plupart du temps, il y a effectivement, je pense même avant la question des banques, c'est surtout avoir accès aux fonciers agricoles en fait. Hein, c'est vraiment une des grandes questions. Et pour les 2-3 exemples que j'ai en tête de paysans qui sont aujourd'hui installés sur des fermes Terre de Liens, ça a été un parcours, des fois un petit peu un parcours du combattant au bout de 3, 4, 5 années de recherche et de projets qui n'ont pas abouti. Et alors je dis pas que c'est par dépit, hein, mais je veux dire c'est vrai que ça, c'est finalement une solution qui est offerte et qui permet de concrétiser un projet de vie.
Au départ on était parti sur de l'achat. Il y a des plateformes de recherche qui sont sur internet pour pouvoir trouver du foncier. Terre de Liens en a une notamment qui met en contact les anciens agriculteurs ou des gens qui veulent vendre du foncier ou une ferme. Donc voilà, il y a tout ça sur internet qu'on peut trouver. Et on était parti sur de l'achat du coup au départ. On a visité des choses. Mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment notre génération qui est comme ça ou si c'est nous. Mais c'est vraiment, on n'a pas envie de s'endetter en fait. On n'a pas envie de passer par les banques. On n'a pas envie d'avoir la corde au cou au départ en fait, parce qu'on a quand même beaucoup de pression quand on s'installe de rien en fait, parce qu'on démarre tout. On a quand même beaucoup d'investissements, aussi bien financiers qu'au niveau de l'énergie, et d'avoir une banque en plus qui se rajoute derrière, c'est très lourd à porter. Et on n'a pas envie de reproduire les schémas de cette agriculture il y a 50-40 ans, où finalement beaucoup d'agriculteurs se sont endettés et aujourd'hui c'est compliqué. La situation de l'agriculture, on est clairement sous perfusion. On n'a pas envie de re-rentrer dans ces schémas-là, quoi. Et du coup, la location, ça a été après une évidence, finalement, où on s'est dit, si on part sur la location, ce sera beaucoup plus facile pour nous de commencer, finalement, quoi. C'est vrai qu'on est quand même dans une société où la notion de propriété, elle est très importante et où on a l'impression que si on n'est pas propriétaire, on a un peu raté sa vie. C'est un peu ça. Mais alors que pas du tout, finalement, quoi. Enfin, on est en train de monter quelque chose qu'on pourra transmettre. Ça nous évite d'investir beaucoup d'argent. Et il y a tout ce côté-là, finalement, quoi, où on se dit, moi, je serais content un jour de transmettre soit à mes enfants, soit à d'autres jeunes qui voudront s'installer par la suite. Et j'ai pas besoin de devenir propriétaire, quoi.
Et le fait que ça t'appartienne pas, je trouve qu'il y a tout de suite un aspect sur il faut faire attention. C'est vrai que quand on va emprunter un livre à la bibliothèque, on fait attention. Si on le perd, on est un peu mal parce que voilà, c'est pas notre livre. Mais dès que l'objet t'appartient, tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce garde-fou aussi inconsciemment qui est fait, je pense.
Emprunter la terre pour en assurer la préservation et renouveler le monde paysan pour qu'il continue à générer à la fois des produits sains, mais aussi de l'emploi, un chemin à suivre sans doute parmi d'autres.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Jeunes agriculteurs s'installer quand même. C'était un reportage d'Anne-Laure Chouin réalisé par Annie Brou. Nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, Dominique Bouvier des Chambres d'Agriculture et René Becker de l'association Terre de Liens. Monsieur Bouvier, on vient d'entendre pour finir ce couple qui s'est installé grâce à cette association, qui ne vient pas du tout du milieu de l'agriculture. Mais il faut quand même rappeler, enfin Anne-Laure le disait tout à l'heure dans son introduction, que la plupart des nouvelles installations sont quand même des fils ou des filles ou des neveux d'agriculteurs.
Oui, en majorité, effectivement, l'essentiel, effectivement, ce sont des transmissions familiales. Il y a beaucoup d'exploitations qui sont transmises de cette façon-là. Mais le reportage a bien montré, effectivement, qu'aujourd'hui, les moyens sont très divers de s'installer. Et donc, on a aujourd'hui des chiffres qui montrent qu'effectivement, l'installation peut se faire à la fois, sur une exploitation familiale, mais aussi hors cadre familial. Vous l'avez rappelé, hein, 2/3 des exploitations aujourd'hui. Et donc, voilà. Alors, avec un problème quand même, au-delà de ces chiffres-là, avec un problème concernant la reprise d'exploitation. Puisqu'en fait, aujourd'hui, deux départs sur trois sont compensés seulement par les installations d'agriculteurs. Donc là, il y a une vraie difficulté métier aujourd'hui, parce qu'en fait, c'était pas le cas il y a quelques années encore.
C'est-à-dire qu'il y a un départ sur trois qui n'est pas compensé, c'est ça?
C'est ça, oui, tout à fait, qui n'est pas compensé. Donc,
Pour des causes économiques, parce que c'est trop dur.
Alors, c'est ça, mais c'est également aussi pour des phénomènes, des évolutions récentes de la réglementation, notamment, et on l'oublie, dans le domaine notamment des retraites, qui ont conduit à un net ralentissement donc des départs, et donc une raréfaction, en fait, des exploitations et des terres à reprendre. Donc,
mais ça n'explique pas pourquoi il y en a un tiers qui ne sont pas reprises, le fait
non,
qu'il y en ait moins.
Non, tout à fait. Mais en revanche, effectivement, il y a quand même cette difficulté par rapport au foncier, justement. On parlait du foncier, donc les retraités.
Trouver
le foncier, l'accès au foncier qui est aujourd'hui plus difficile, sans doute, qu'auparavant.
Donc. René Becker, vous êtes donc membre fondateur de l'association Terre de Liens, dont on vient de parler à la fin du reportage, oui, qui a permis à ces jeunes de s'installer. C'est un modèle de location. Est-ce que c'est un modèle unique que vous pratiquez, ce système de la location? Est-ce que c'est un peu ça, l'avenir pour les jeunes qui voudraient débuter dans le métier?
Non, la moitié des agriculteurs à la louche sont locataires de leurs terres. Il n'y a pas tous les paysans qui achètent leurs terres. Donc là, nous n'avons rien inventé. Beaucoup de paysans n'ont pas les moyens ou ne souhaitent pas acheter des terres.
Ils sont en fermage, on dit.
Ils sont en fermage. Donc tous les fermiers Terre de Liens sont locataires, payent un loyer qui est encadré par la loi.
Alors le but de Terre de Liens au départ, c'est d'essayer de trouver du foncier pour ceux qui n'en trouvent pas, c'est ça? On peut dire un peu la philosophie à la base?
Alors il y avait plusieurs idées que je peux rappeler très rapidement, mais ça a été très bien dit dans le reportage. On constate d'une part de l'agrandissement, de plus en plus de surface pour vivre pas forcément mieux. La spéculation foncière à chaque changement de génération, chaque fois qu'il y a vente de terre, les prix augmentent, donc le foncier ne cesse d'augmenter. On parle aussi de plus en plus d'accaparement des terres, c'est un phénomène mondial. On voit la difficulté de l'installation aujourd'hui quand on n'est pas fils de paysan, et même quand on l'est, il faut acheter du matériel, un cheptel, construire des bâtiments, une fromagerie, ça coûte de plus en plus cher. Et nous avons voulu répondre à une question aussi qui est la demande des consommateurs sur des produits de qualité dans la filière de l'agriculture biologique. Donc toutes les fermes pratiquent cette agriculture.
Et quand vous êtes installé, je voulais dire que c'était il y a assez longtemps quand même, c'est en 2003, je parle de l'association, elle a été créée dans ces années-là.
Alors l'association a démarré en 2003, et entre-temps 19 associations territoriales se sont mises en place pour accompagner tous ces projets. Et en 2006, la foncière, qui a été évoquée tout à l'heure, c'est une société où n'importe qui peut acheter des actions. Aujourd'hui, il y a 13 000 sociétaires, plus de 55 millions d'euros de capital, donc c'est considérable. Et nous avons aussi une fondation reconnue d'utilité publique, c'est le cas de Pierre Jeanne.
Il a fallu un petit moment pour que l'association prenne vraiment son ampleur, Anne Lorchouin.
Alors ce foncier, on parlait d'accaparement des terres tout à l'heure, c'est l'une des difficultés majeures pour ceux qui voudraient s'installer, même si le foncier, on le rappelle, le foncier agricole en France est l'un des moins chers d'Europe. Vous-même, Terre de Liens, comment, on parle aussi de plus en plus d'urbanisation, comment vous arrivez à le préserver, voire à en racheter, à l'agrandir, voilà, pour pouvoir le proposer ensuite?
Mais dans le reportage, on a entendu parler de la SAFER. La SAFER est l'acteur incontournable qui régule le prix du foncier. Donc on essaye au mieux de travailler avec la SAFER, qui n'a pas pour rôle, elle, d'acheter et de rester propriétaire, mais de rétrocéder. Donc très souvent, nous passons par la SAFER pour acheter les fermes, veiller à ce que les prix soient corrects, qu'il n'y ait pas de spéculation. Et ensuite, on cherche des candidats où c'est, dans bien des cas, eux qui viennent taper à la porte de Terre de Liens.
Alors, les SAFER, Société d'aménagement du foncier rural.
D'aménagement rural, oui, qui effectivement ont vocation à travailler et à favoriser l'installation à travers la rétrocession des terres, comme vous l'avez expliqué.
Vous, Dominique Bouvier, dans les chambres d'agriculture, oui, vous aidez effectivement aussi à choisir qui va s'installer.
Alors, à choisir, c'est en fait un bien grand mot, puisqu'en fait, normalement, le jeune qui s'installe est un chef d'entreprise, donc on ne choisit pas le chef d'entreprise. Évidemment, c'est lui qui s'adresse à la Chambre d'agriculture, et la Chambre d'agriculture a vocation à l'accompagner. Et donc, vous avez bien vu à travers le reportage l'importance de l'accompagnement tout au cours de l'installation, puisque notamment, on parlait des hors-cadres familiales, ça joue énormément. Il faut donc accompagner ces personnes qui s'installent, qui sont souvent, qui ne sont pas issues du milieu agricole, donc les aider dans leur démarche. démarche tout au long de l'installation. Et notamment, d'autant plus quand elle est aidée aussi, puisqu'en fait, là, il y a des engagements à respecter par rapport aux aides dont les jeunes agriculteurs, les porteurs de projets peuvent bénéficier. Et donc, le rôle de la Chambre, effectivement, est celui-là. Il y a à la fois la mission de service public de la Chambre pour effectivement instruire les dossiers, mais à côté de ça, il y a tout un accompagnement donc du jeune au tout début, alors qu'il a justement défini à peine son projet, jusqu'à donc son installation complète.
Alors c'est hors cadre, critique un peu les chambres d'agriculture pour le fait de favoriser peut-être les gens qui sont issus du cadre familial, et aussi, alors pas tant les chambres d'agriculture que les SAFER, pour préférer vendre des terres qui vont à l'agrandissement plutôt qu'à l'installation. Est-ce que c'est un fait ?
Alors, je dirais que effectivement, c'est le fait que les terres soient concentrées et aillent à l'agrandissement, ce ne sont pas les chambres qui le décident là aussi.
Alors, ce sont les SAFER, c'est ça ?
Alors, il y a les SAFER et il y a les commissions de développement d'orientation agricole, les CDOA, qui en fait, à l'échelon départemental, à partir du contrôle des structures, puisque la profession s'est dotée en fait justement sur le foncier d'un contrôle des structures qui permet d'orienter les terres vers l'installation, mais aussi quelquefois vers l'agrandissement, quand l'agrandissement s'impose et est nécessaire pour la viabilité de l'exploitation. Donc le choix, il ne résulte pas d'une décision de la Chambre d'agriculture,
mais
de la profession agricole
elle-même.
Mais est-ce
que c'est vrai de dire que justement on va vers un agrandissement toujours plus substantiel?
Oui, bien sûr, les chiffres le montrent d'ailleurs, puisqu'en fait finalement les superficies moyennes par jeune installé augmentent contrairement à celles des plus âgés. Hein. La superficie moyenne par exploitation agricole aujourd'hui, elle est de 64 hectares en 2015 en tout cas. Elle était et en progression constante donc de 2% par rapport à l'année précédente par exemple. Donc effectivement ce phénomène est un phénomène aujourd'hui qui s'amplifie.
Alors à Terre de Liens, quels sont les profils qui viennent vers vous, ceux qui n'ont pas pu acheter de terre? Il y a des critères spécifiques, plutôt dans le bio, plutôt dans des pratiques raisonnées, on va dire. Qui sont ces jeunes qui arrivent? Est-ce qu'ils arrivent plutôt en couple?
Alors, les profils sont très atypiques. Hein. Ce sont essentiellement des personnes jeunes, en couple. On a aussi des collectifs, des gens qui se mettent en GAEC.
Alors les GAEC, faut peut-être dire ce que c'est.
C'est un groupement agricole d'exploitation commun. Hein, donc c'est une formule juridique classique pour s'installer. C'est un genre de mariage à plusieurs. Il faut être au moins deux. Ouais. Mais ça peut aller à bien plus que ça. Et nous n'avons pas une politique précise qu'il faudrait 3 hectares, 30 hectares. On a des fermes qui ont de toutes petites surfaces pour faire du maraîchage. Il faut beaucoup moins de surface. Mais on a des domaines qui font plus de 100 hectares. Donc ça dépend ce que vous faites dessus. Est-ce que c'est de la polyculture, de l'élevage, il faut des prairies ou des surfaces en céréales. Voilà, il y a tous les profils. Mais une des spécificités, c'est que la mise à bail, donc la location, se fait avec des clauses dites environnementales. Et nous avons la possibilité donc de rajouter à un bail classique des clauses environnementales, dont le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique, le respect des haies, des infrastructures dites agroécologiques. Hein. Donc tout ce qui est paysager finalement, qui est l'héritage des paysans avant nous, comment on le respecte pour le ramener aux générations futures.
Et alors, est-ce que mécaniquement, ça induit que ce sont des profils qui sont plus hors cadre, justement, qui ne viennent pas du...
Alors, la majorité des fermiers terriens sont des hors cadres familiaux, mais on est intervenu aussi des fois dans des cas de séparation où l'un des conjoints doit racheter la part à son associé. Voilà, il y a tous les cas de figure, mais ce qu'on met en avant, c'est favoriser l'aide à l'installation, parce qu'on l'a entendu dans tous les reportages, c'est très difficile d'accéder au foncier.
Alors, on a compris quand même aussi qu'il y a une vraie crise agricole, même si dans le reportage d'Anne-Laure, finalement, ceux qu'on a vus, enfin, que vous avez rencontrés, Anne-Laure, s'en sortent plutôt bien sur le terrain. Et il y a un certain nombre de défaillances, quand même, chaque année de sociétés d'exploitation agricole. Avez-vous des statistiques précises, Dominique Bouvier? Parce que moi, j'ai vraiment lu des chiffres un peu différents les uns des autres. Par exemple, il y avait une étude qui était parue dans les échos une étude Altares qui expliquait qu'il y avait en 2016 ou 2015, je me souviens plus de l'année, mais 1331 exploitations en faillite ou qui étaient bientôt reprises par quelqu'un d'autre. Et la FNSEA, elle parlait plutôt de 8000 agriculteurs en grande difficulté sur cette même année. Alors qui faut-il croire?
Je crois qu'il faut faire la part des choses entre les deux chiffres que vous avez annoncés. Effectivement, on n'a pas beaucoup plus de chiffres que ça, mais par rapport aux chiffres Altares, je pense qu'il faut les prendre en compte tenu du fait que ce sont des entreprises qui ont cessé leur activité, et les chiffres annoncés par la FNSEA la concernent plus précisément des exploitations en difficulté économique, et donc pas forcément, heureusement d'ailleurs, des entreprises qui mettront la clé sous la porte, donc avec la possibilité justement avec un accompagnement spécifique peut-être de repartir
de s'en sortir,
sur de nouvelles bases et de s'en
mais
sortir.
Mais il y a combien d'exploitations en France, grosso modo? 470 000, c'est ça?
Enfin, 400, précisément, pardon, 467 500. Voilà, aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'un des freins à l'installation, c'est qu'aujourd'hui, justement, il faut avoir les reins très solides, présenter des plans prévisionnels aux banques, sacrément bien fait, voilà. Mmh. Et est-ce que c'est pas aussi un des freins à l'installation, c'est que les banques, in fine, refusent?
Oui, parce que, la plupart du temps, en fait, on l'a dit également, l'activité agricole est une activité quand même assez capitalistique, donc qui exige un apport de capitaux important. Alors évidemment, la diversité des exploitations, on l'a vu, et des installations, en fait que effectivement on peut s'installer sur peu de foncier avec et les petites exploitations sont évidemment à prendre en compte également parce que elles peuvent dégager un revenu tout à fait intéressant avec des circuits de proximité. Enfin bon, il y a toute forme possible en fait d'éviter effectivement de rentrer dans un schéma capitalistique trop important quand le jeune notamment est hors cadre familial. En revanche, quand il s'agit effectivement d'une reprise d'exploitation familiale, là c'est déjà plus compliqué. Généralement, ces exploitations, on l'a dit, ont été amenées à s'agrandir avec des machines, un équipement finalement relativement important aujourd'hui. Les exploitations agricoles se sont énormément modernisées. Il faut prendre par exemple les exploitations laitières où en fait les robots de traite se sont généralisés. Et ça fait que effectivement les banques aujourd'hui, compte tenu de la crise, compte tenu des difficultés, il faut voir aussi que l'économie agricole, c'est une économie très fragile vis-à-vis de la volatilité des marchés et des prix. Donc les banques sont prudentes.
On peut le comprendre. Alors en ce qui concerne quand même l'installation, il y a aussi tout le volet aide à l'installation. On entendait tout à l'heure à la fin du reportage d'Anne-Laure, Pauline, je crois, qui disait nous, on a voulu sortir de ce schéma de perfusion finalement aussi, où on est aidé par la PAC ou par d'autres structures. On veut pas faire avec toutes ces aides et finalement on veut être autonome, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, René Becker? Est-ce que ceux qui viennent vous voir justement ne touchent pas trop d'aides d'installation?
On leur laisse totalement le choix de s'installer avec une dotation jeune agriculteur, d'avoir recours aux emprunts. On veillera simplement à ce qu'avant de signer un bail, ils ne s'engagent pas dans une aventure où ils se casseraient la figure. Non, ils peuvent tout à fait prétendre aux aides PAC, aux aides à la reconversion à l'agriculture biologique. Ça, c'est un choix qu'on laisse à l'appréciation.
Mais la plupart du temps, ils votent pour quoi?
Ils prennent des aides pour les cultures ou pour l'élevage auxquelles ils ont droit, comme tout agriculteur. C'est pas forcément se mettre la corde autour du cou. Il y a des contraintes, mais de toute façon, les animaux, il faut les boucler, que vous soyez avec des aides ou non.
De votre point de vue, est-ce que vous pensez que l'enseignement agricole est adapté? On a vu notamment, on peut s'installer de plein de manières différentes au point de vue juridique. Est-ce que les jeunes qui arrivent sont bien au courant de tout ça? Est-ce que vous offrez aussi un accompagnement par rapport à ça?
Oui, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience sur le fait qu'il faut apporter aux porteurs de projets, aux jeunes qui vont s'installer, tous les outils nécessaires pour justement être à la tête d'une exploitation agricole. Donc c'est une véritable entreprise avec tout ce que ça comporte, et notamment aujourd'hui avec, on l'a dit à travers le reportage aussi, des questions, des notions de gestion, de comptabilité.
Mais quand même, face à la crise, et puis ce sera un peu nos dernières questions parce qu'il nous reste une petite minute, mais est-ce que vous trouvez quand même que les réponses, par exemple, de l'État ont été à la hauteur? On a en gros donné aux agriculteurs des aides, des baisses de cotisations, est-ce que c'est ça qu'il faut faire?
C'est effectivement, en fait, ce sont des mesures d'urgence. Alors, il faut essayer de faire en sorte, effectivement, de maintenir à flot ces exploitations-là. Bien évidemment, il faut prendre conscience aujourd'hui pour l'avenir que ça ne suffira pas et qu'il faut probablement essayer de revoir la politique agricole à l'aune, justement, de ces mutations qui sont très importantes. Et c'est non seulement à l'échelon national, mais également à l'échelon européen.
Ouais, ça, forcément.
Avec la nécessité d'avoir en fait des mesures qui en fait permettent justement de gérer les crises et de les éviter en fait.
Un petit mot, René Becker, de conclusion là-dessus.
Mais on voit que de plus en plus de citoyens deviennent conscients de leur alimentation, cherchent à nouveau à se relier davantage à la terre, au vivant, d'où vient leur alimentation. Et on voit que se mettent en place de nombreux circuits de distribution un nouveau genre comme les AMAP. Et ça va aller de plus en plus.
Bon, pour l'instant, le bio, c'est seulement, si j'ai bien lu, 6-7% du chiffre d'affaires de l'agriculture. Donc, il y a encore un peu de chemin à faire. Merci beaucoup à tous les deux. Dominique Bouvier, René Becker, merci d'avoir participé à ce magazine de la rédaction Jeunes Agriculteurs. S'installer quand même, reportage d'Anne-Laure Chouin. Merci Anne-Laure, réalisé par Annie Brault. Je remercie aussi la technique Jean-Guilain Meige. Vous pouvez réécouter cette émission, la commenter, la podcaster pendant un an sur franceculture.fr. Depuis la diffusion de ce magazine le 24 février dernier, Anne-Laure, la Cour des comptes européenne s'est penchée sur le dispositif des aides à l'installation.
Oui, elle a effectué un audit de ces aides dans 4 pays européens, dont la France. Sorti le 29 juin dernier, ce rapport y accable ce qu'il appelle un mauvais ciblage des aides à l'installation. Il faut rappeler qu'une partie de ces aides, proposées donc pour les jeunes agriculteurs par les chambres d'agriculture et les syndicats, est financée par l'argent de la PAC, un argent dont l'Europe estime donc qu'il devrait être mieux utilisé pour être plus efficace. Voilà ce que dit la Cour des comptes. Le soutien de l'Union en faveur des jeunes agriculteurs est trop souvent mal défini, sans description du résultat et de l'impact attendu. C'est vrai notamment dans les 4 États membres qui ont dépensé le plus pour aider les agriculteurs de moins de 40 ans, la France, l'Espagne, la Pologne et l'Italie. Et concernant les aides des JA, les jeunes agriculteurs français, les critiques de la Cour sont particulièrement acerbes. Les JA ne fondent pas ces aides sur une évaluation rigoureuse des besoins, ne répondent pas à l'objectif général d'encourager le renouvellement des générations. Ces aides ne sont pas toujours versées aux jeunes agriculteurs qui en ont besoin et elles sont parfois consenties à des exploitations dans lesquelles les jeunes agriculteurs ne jouent qu'un rôle mineur.
Alors on l'entend, ces critiques sont très violentes, Anne-Laure. Ce sont quand même des critiques auxquelles ont répondu les jeunes agriculteurs français.
Voilà, la dotation jeunes agriculteurs a fait largement ses preuves, disent les JA, l'immense majorité des jeunes qui en ont bénéficié sont toujours en activité 5 ans après, CQFD. Il faudrait même, disent ces JA, que l'Europe tout entière s'inspire de la manière dont sont fléchées leurs aides pour assurer un renouvellement des générations.
Alors Anne-Laure, ce rapport assassin ne cache-t-il pas d'autres enjeux ?
Certainement oui, les syndicats y voient, et ils ne sont pas les seuls, une façon pour l'Europe d'annoncer qu'elle va baisser les aides PAC à l'installation dans le prochain budget. On rappelle que la PAC 2020 commence à se négocier en ce moment, et que le principal enjeu de cette négociation, c'est le maintien du budget actuel de la PAC, un budget qui est très très menacé à cause notamment du Brexit et de la perte de la contribution britannique qui s'élevait à une dizaine de milliards de dollars.
Merci Anne-Laure Chouin, votre magazine de la rédaction est à retrouver sur notre site franceculture.fr.